On est en train d'avoir une désagrégation de l'ordre, hégémonique américain. Elle est la dernière élection actuelle maintenant est un point, si vous voulez, critique de ça. Et ce genre de choses doit être compris. Et ça a des effets très puissants, on va le voir, sur l'économie.
Les journées de l'économie. GECO.
Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. Donc vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris 10 et à HEC notamment. Et vous êtes considéré comme fondateur avec Robert Boyer notamment de l'école de la régulation. C'est une approche de l'économie qui met l'accent sur l'histoire et les institutions des économies nationales en déterminant des régimes spécifiques, donc selon les pays ou selon la période. Elle est considérée comme une approche hétérodoxe de l'économie. Et ma première question portera sur ce terme, puisque l'année dernière, nous interrogeons André Orléans sur une définition possible de l'hétérodoxie en économie, et il nous répondait qu'on pouvait la définir comme les théories qui s'opposaient à la théorie marginaliste de la valeur et à l'individualisme méthodologique. Est-ce que vous souscrivez à cette définition, et en quoi l'école de la régulation peut être considérée comme hétérodoxe de ce point de vue ?
Ouais, de ce point de vue, certainement, puisque la conception... disons économiste, ou économiciste, on pourrait dire, standard, est une conception dans laquelle les individus sont supposés comme indépendants les uns des autres et n'ayant des rapports qu'avec les objets, qui s'expriment à travers ce qu'on appelle leur utilité. Et c'est-à-dire que l'économie, d'ailleurs il s'est revendiqué comme tel, l'économie s'autonomise des rapports sociaux. Et donc la vision opposée, c'est une vision qui est partagée par toutes les sciences sociales, je veux dire, c'est que les rapports sociaux rendent interdépendants les dimensions économiques, politiques, culturelles, etc. Donc ça, c'est évidemment une opposition fondamentale, c'est-à-dire l'économie doit être pensée comme encastrée dans la société, dans le collectif, et non pas comme un domaine de relations dans lequel seul intervient le prix, dans lequel les individus restent autonomes et indépendants des uns des autres, mais liés uniquement par l'intermédiaire du prix. Et donc, ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, malgré tout, c'est, vous avez parlé d'histoire, à juste titre, c'est l'évolutionnisme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'interpréter le mouvement des sociétés marchandes, en espèce, et capitalistes, bien sûr, dans le cadre de leur logique interne de développement, qui passe par des phases, et ce que l'histoire, on le constate, je vais dire, des phases relative stabilité et de bien-être progressif de la population, et des phases, au contraire, de crise qui peuvent, et dans lesquelles il y a une mutation de ce qu'on appelait les régimes de croissance. Donc, voilà, donc en effet, ça dit des choses complètement différentes. Alors moi, ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur les questions globales, internationales, puisque... Je travaille au CEPI, qui est un centre d'études de l'économie mondiale. Ceci est encore plus clair dans le cadre de l'économie mondiale. Vous avez des grandes phases d'internationalisation et de relations internationales étroites et des phases de repli, au contraire. Et ça, il faut pouvoir le penser. Et la théorie standard ne peut absolument pas penser ça, puisqu'elle pense uniquement en termes d'un équilibre qui est toujours le même, qui existe toujours, et dans lequel la temporalité historique n'est pas présente.
Ce que vous dites sur l'histoire est très intéressant. Je pense notamment à une phrase de Schumpeter qui qualifie Karl Marx, la théorie de Karl Marx. Il dit « La conception d'une théorie, qu'il s'agit donc de la conception d'une théorie portant non pas seulement sur une succession de situations spécifiques disjointes, mais sur la succession effective de ces situations, sur l'évolution économique telle qu'elle se poursuit, sous sa propre impulsion. » On a dit parfois que l'école de régulation était une théorie marxiste. Est-ce que vous pensez qu'elle continue cette tentative de penser l'évolution économique telle qu'elle se poursuit sous sa propre impulsion ?
Ah oui, absolument. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a parlé tout à l'heure de crise, de contrat, de tension, eh bien, elles sont endogènes au système. Alors que dans la conception néoclassique, qui est une conception de l'équilibre, les chocs sont nécessairement exogènes. Une fois que vous avez atteint un équilibre, vous avez atteint un point fixe et rien ne bouge, sauf s'il y a quelque chose d'exogène qui apparaît. Là, c'est au contraire un processus qui n'est pas une évolution paisible non plus, hein, puisqu'elle est, par moments, elle passe par des crises qui créent des mutations. Et qu'est-ce qui change dans les crises? C'est les institutions elles-mêmes. C'est-à-dire que les institutions de la société les plus importantes, que ce soit la monnaie, que ce soit le droit, que ce soit les relations entre groupes sociaux sous la forme de mécanismes de négociations, de compromis, d'accord, tout ce qui fait le mouvement social, eh bien ça change à travers, parce que c'est affecté puissamment par des contradictions fortes. Regardez aujourd'hui où on en est. Hein. Aujourd'hui, on est en train d'avoir une désagrégation de l'ordre, hégémonique américain. Elle est la dernière élection actuelle maintenant, est un point, si vous voulez, critique de ça. Et ce genre de choses doit être compris. Et ça a des effets très puissants, on va le voir, sur l'économie.
Et en même temps, cet usage de l'histoire, alors très important pour comprendre comment fonctionne ou a fonctionné l'économie, a parfois été une critique qu'on apportait à l'école de la régulation et à vos travaux plus généralement, puisque si elle est pertinente pour analyser le passé, elle ne permet pas toujours de mettre en place des modèles prévisionnels. Et du coup, est-ce que, selon vous, l'école de la régulation permet tout de même de mettre en place des modèles prévisionnels, ou c'est plutôt une science historique?
Alors, il y a deux niveaux qui me semblent très importants. Celui qui correspond à l'intérieur d'un régime de croissance. À l'intérieur d'un régime de croissance, c'est-à-dire dans lequel il y a des relations qui font système et définissent une régulation qui absorbe les chocs et qui font avancer ce qui est la tendance qui pousse tout ça, c'est-à-dire la tendance de l'accumulation du capital, la tendance du capitalisme à dépasser toute limite. Mais en dépassant toute limite, il crée des contradictions, et c'est bien pour ça qu'il y a besoin de mécanismes institutionnels de régulation. Tant que vous êtes à l'intérieur de ça, vous pouvez déconstruire un modèle dans lequel vous pouvez en effet prévoir des trajectoires qui peuvent donner, c'est-à-dire que vous avez certaines relations entre le salaire, le profit, la répartition des revenus qui sont prévisibles. Lorsque vous avez une crise du régime de croissance, vous tombez dans ce que Keynes appelle l'incertitude radicale. Et ce qu'on est aujourd'hui d'ailleurs, dans l'incertitude radicale, à ce moment-là, il n'y a pas c'est bien toute la question du drame de la chose. Il n'y a pas de modèle de prévisibilité possible. Et la question, c'est comment est-ce que le politique peut reconstruire justement une vision du futur et relancer à partir de là l'ensemble des institutions compatibles avec cette nouvelle vision du futur. Et qu'est-ce qui peut faire une vision du futur qui ensuite fasse lien social, fasse organisation de la société et lui évite de continuer à se fragmenter, hein, c'est ça qui est le problème. Les crises très profondes fragmentent les sociétés. C'est en effet la capacité du politique, parce qu'il est souverain, de pouvoir exprimer le collectif, de pouvoir avoir une acceptabilité de la population sur une nouvelle vision de l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas prévisible. Et ça, je tiens à ça, qu'il y a des périodes historiques qui sont ces grandes périodes de mutation. Personne ne les a jamais prévues, personne ne les a jamais organisées à l'avance. Elles sortent de l'histoire, et c'est de nouvelles forces politiques qui sortent, des gens avec de nouvelles idées qui n'existaient pas avant. C'est ça le point fondamental.
Très bien. Mais une fois qu'elles adviennent, ces bouleversements politiques, est-ce qu'on peut les penser, si on veut avoir un cas concret, on a appris ce matin, avec effroi peut-être, l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Est-ce que ça témoigne d'un changement radical dans le mode de régulation de nos sociétés?
Mais la crise a commencé avec la finance, et c'est souvent comme ça. C'était comme ça aussi dans l'entre-deux-guerres. Les crises commencent par la finance et se transforment ensuite en crise sociale et politique. La crise financière est l'inauguration d'une grande mutation, me semble-t-il. Et la conséquence n'a pas été, en effet, une récupération. Vous voyez, c'est pas la même chose que ça aurait été si ça avait été à l'intérieur du régime de croissance globalisé qui s'est mis en place dans les années 80. Il y a eu des quantités de crises déjà. Il y en a eu dans le monde occidental, des crises du logement au milieu à la fin des années 80. Il y a eu la crise des high-tech à la fin des années 90. Mais c'était des crises internes au régime de croissance qui lui permettait de le récupérer, de les récupérer selon sa propre logique. La crise financière systémique de 2008, c'est autre chose. C'est quelque chose qui traduit la fin, l'amorce de la fin d'un régime de croissance. Elle se développe en crise sociale et politique. Donc vous avez eu d'abord le fait qu'on n'a pas récupéré la croissance antérieure. Ça, c'est la stagnation, l'idée, la notion de stagnation séculaire. Puis, vous avez eu le Brexit. Puis, vous avez l'élection américaine qui traduit la poursuite du processus d'affaiblissement massif de l'hégémonie américaine. Et donc, il va y avoir des effets sur l'Europe sans doute très importants qui vont se produire l'année prochaine. Supposez que la troisième, première phase Brexit, deuxième phase, vous avez l'élection de Trump, qui introduit quand même le racisme, la xénophobie et le sexisme à l'intérieur de la société américaine, d'une manière beaucoup plus importante qu'on croyait qu'elle ne l'était. Vous avez probablement possible le référendum italien qui tourne mal, avec le... Et puis ensuite, l'élection française. Vous risquez d'avoir une montée des populismes absolument généralisée. Et donc ça peut traduire ce qui menace le plus, c'est traduire un retrait de la globalisation. Un retour sur des contrôles, des espaces séparés les uns des autres, des stratégies très différentes. Car arrive là-dessus la montée d'États continents qui ne sont pas dans l'orbite américaine, et donc le mode de hégémonie de l'après-guerre dominé par les États-Unis si vous voulez, fragmenté de différents aspects, à la fois interne et externe.
Effectivement, le New Yorker, je crois, ce matin, rappelait que Donald Trump était le premier président américain à critiquer ouvertement la globalisation. Donc c'est un changement majeur. Et pourtant, même dans son élection, on peut voir des effets importants de cette globalisation. Vous êtes spécialiste de globalisation financière notamment. Et j'ai pu voir ce matin que les entreprises européennes cotées en bourse avaient perdu 2% après l'élection de Trump. Comment est-ce qu'on peut penser ces conséquences financières de transformation politique ?
C'est que là, pour le coup, on rentre dans un monde d'incertitude radicale. Et encore une fois, la finance, c'est que la peur de tout, c'est de ça. L'incertitude crée la panique. Et donc, la possibilité de panique sont possibles. Vous pouvez avoir des mouvements boursiers totalement erratiques dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Ça traduit le fait que on n'arrive pas à reconstruire un narratif, comme on dit, une vision cohérente de l'avenir dans ce contexte-là. Et donc, la finance est évidemment, la caisse de résonance des inquiétudes, c'est un peu ça, comme elle est aussi la caisse de résonance des espoirs. C'est pour ça que la finance va toujours aux extrêmes, d'un côté ou de l'autre. Et bien là, il y a un danger, si vous voulez, de sombrer dans le pessimisme, et c'est vraiment... Quelle va être la réponse des politiques, notamment en Europe, au continental, compte tenu de cette double menace maintenant, celle qui vient des États-Unis après le Brexit, et dans le cadre du Brexit qui est très loin d'avoir fini de montrer toutes ses conséquences. Il a à peine commencé.
Oui, mais dans cette mesure où le mode de régulation actuel, donc même s'il est en crise, lie énormément l'Europe et les États-Unis, comment le politique pourrait s'emparer de cette question pour essayer de minimiser la crise ?
La réponse est certainement dans une avancée de l'Europe, une avancée des institutions européennes. C'est-à-dire qu'il y a trop de forces qui poussent au démantèlement de la zone euro en particulier, ça peut être un choc final qui vraiment fait le démantèlement de la zone euro. Le démantèlement de la zone euro mène à la montée des populismes nationaux de manière quasi irrémédiable. Et donc, la question, c'est le prochain livre que je vais sortir en début de l'année prochaine, avec un politologue, c'est quels sont les modes de... comment reconstruire un pacte européen sur des bases qui permettent d'éviter la dégradation que l'on constate sur du fonctionnement des institutions européennes depuis maintenant la crise de 2008 et surtout la crise grecque de 2010.
D'accord. Alors,
et ça, bon, en effet, c'est une question en soi. Hein. Mais là, il y a besoin de faire avancer. Nous, on appelle ça, dans ce livre, vous verrez l'année prochaine, début de l'année prochaine, la double démocratie. C'est-à-dire qu'il faut faire absolument avancer un niveau de souveraineté européen avec un Parlement, un vrai Parlement, capable, lui, de relancer, en effet, un processus d'investissement qui permettrait de sortir de la stagnation dans laquelle on est. Mais ça suppose, de la même manière qu'en 1984, on était déjà dans une situation très difficile en Europe. À la suite des crises inflationnistes des années 70. Et ça a été, si vous voulez, l'accord Mitterrand-Kohl qui a permis à Delors de lancer son projet de monnaie. Si on a été capable de créer une monnaie dans les années 80, pourquoi n'arriverons-nous pas à créer un budget, car c'est ça qui manque, hein, un budget au niveau européen dans la crise actuelle, hein, et l'interrogation elle est là-dessus.
D'accord. Vous allez bientôt retourner à votre conférence. Monsieur Aglietta, je vais vous poser une dernière question très rapide, un peu hors sujet, par rapport au thème des journées de l'économie cette année. C'est la grande mise à jour. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années dans le monde? Quel élément le plus marquant de cette grande mise à jour?
L'élément qui devrait être le plus marquant, pour moi l'élément le plus marquant, c'est la COP21. C'est-à-dire la prise en compte nécessaire de l'environnement comme un problème de bien public de toute la planète, le refus de le reconnaître crée une menace sur l'humanité dans son ensemble, et qui doit reconstruire le modèle de croissance, justement, le régime de croissance. Et donc l'avancée qui a été faite l'année dernière dans la COP21, et la prise en charge des problèmes par le G20 cette année me semble être l'axe dans lequel les choses peuvent bouger d'une manière positive en politique. Le G20 devrait devenir une instance politique qui joue un rôle de gouvernance plus important qu'il ne l'a joué, sauf dans la crise tout de suite, puis après il a baissé de ton, qui reprenne maintenant un rôle de gouvernance, et ceci est tout à fait décisif pour éviter des conflits qui pourraient être très graves.
Très bien, merci Michel Aglietta, je vais vous laisser retourner à votre conférence.
Les journées de l'économie. GECO.